Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos archives. Bon, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une exploration qui va bousculer pas mal d'idées reçues, je pense.
Ah, ça, c'est clair. Bonjour tout le monde, ravi d'être là.
Alors, figurez-vous qu'en 1852, une famille moyenne de journaliers agricoles dépensait la moitié, la moitié de son revenu annuel juste pour acheter du pain.
C'est énorme.
C'est impressionnant, ouais. Mais en fait, ce n'est même pas le chiffre le plus marquant de notre dossier d'aujourd'hui. Ce qui frappe vraiment quand on regarde ces archives, c'est ce qui se trouve à zéro franc.
Les fameux zéros, oui.
Zéro pour le chauffage, zéro pour les économies, et surtout, et c'est là que c'est fascinant, zéro trace de ce que gagnait chaque membre de la famille individuellement.
Parce que c'est un point fondamental. La notion même de salaire individuel, elle n'existait littéralement pas dans leur réalité.
Exactement. Et aujourd'hui, on a tous un peu tendance à concevoir notre modèle familial avec nos salaires individuels, la séparation très nette entre le travail et la maison. On voit ça comme une donnée intemporelle.
Une sorte de norme naturelle.
Voilà, une norme. Pourtant, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment la société est passée d'une économie basée sur la famille entière, ce foyer indivisible, à une économie d'individus salariés. Et pourquoi nos institutions modernes n'ont toujours pas fini de digérer cette transition.
Oui, et pour décortiquer cette mutation, on s'appuie aujourd'hui sur une pile de sources d'une très grande diversité. On a les célèbres monographies sociologiques du 19e siècle, rédigées par Frédéric Le Play.
D'accord.
On a aussi des essais fondateurs de l'économie classique, des manifestes majeurs du féminisme matérialiste, et enfin des critiques très conservatrices de la modernité.
Un sacré programme. Et là, je pense qu'il faut vraiment faire une petite pause pour donner un avertissement. C'est crucial.
Tout à fait. C'est un point de méthode indispensable avant d'aller plus loin. Les documents qu'on aborde aujourd'hui contiennent des thèses politiques diamétralement opposées.
Complètement opposées, oui. On va du traditionnalisme hérité du Moyen-Âge jusqu'au féminisme matérialiste radical.
C'est ça. Et notre démarche ici, et c'est important de le souligner, c'est de ne prendre absolument aucun parti. On n'endosse aucune de ces idéologies.
Zéro parti pris, pour que ce soit bien clair pour l'auditoire.
Zéro. Notre seul objectif, c'est de rapporter fidèlement, objectivement, les idées qui sont contenues dans le matériel d'origine, juste pour informer et donner les clés de compréhension.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que la pluralité de ces sources, c'est justement ce qui permet de cerner le basculement. Si on commence par le monde d'avant l'usine, il faut vraiment se défaire d'un réflexe très contemporain.
Lesquels ?
Celui de penser l'économie à l'échelle de l'individu. Et les travaux de ce fameux Frédéric Le Play l'illustrent avec une précision quasi mathématique.
Oui, Le Play, c'était un polytechnicien et sociologue du 19e siècle. Il passait des semaines en immersion dans des familles ouvrières ou paysannes.
C'est ça. Et dans son étude de 1852 sur cette famille de journaliers, ceux qui gagnaient 300 francs par an, son approche comptable est hyper révélatrice. Il calcule les entrées et les sorties globales. Jamais il ne cherche à isoler la part de richesse produite par la femme, par le mari ou par les enfants.
Et cette méthode, ce n'est pas un oubli de sa part. Ça reflète vraiment la vision du monde de l'époque. Dans ce modèle, le foyer, c'est une unité de production globale.
Une seule entité.
Exactement. Le Play conceptualise d'ailleurs ça à travers ce qu'il nomme la famille souche. C'est un modèle qui repose souvent sur ce qu'on appelle l'héritage précipitaire.
Alors, l'héritage précipitaire, en termes simples, c'est quoi ?
En gros, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul héritier. Le but, c'est d'empêcher la fragmentation de la ferme ou de l'atelier. La famille, c'est avant tout une unité de production sous l'autorité d'un chef.
Le chef de famille, donc.
Voilà. C'est lui qui gère toutes les ressources pour assurer la survie de la lignée. La maison n'est pas juste un lieu où on dort, c'est une entreprise.
C'est une super image, ça. Pour bien visualiser, on peut comparer ce modèle pré-industriel à, disons, une entreprise familiale où seul le PDG posséderait le chéquier.
C'est exactement ça.
Tous les membres vivent sous le même toit, travaillent dans les mêmes champs. Du coup, imaginer un des membres exiger un salaire individuel serait paru complètement absurde.
Mais oui, ça n'avait aucun sens.
C'est un peu comme si, pour utiliser une autre analogie, au sein d'un corps humain, le bras gauche demandait à être payé indépendamment du reste du corps.
Ah oui, très parlant.
Le bras ne peut pas survivre tout seul. Exactement. La survie n'est envisageable qu'à l'échelle du tout. Mais alors, comment est-on passé de cette ferme collective, organique, à la séparation des rôles qu'on connaît ?
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'avant l'industrie, il faut rappeler que les femmes travaillaient partout.
Ah ben oui, dans l'agriculture à 80%, dans l'artisanat, même dans les mines.
Tout à fait. Ce qui crée la rupture, ce n'est pas le travail des femmes, c'est l'usine. L'usine exige un temps plein et surtout un temps plein hors de la maison.
C'est le déplacement physique qui change la donne.
Voilà. Et l'organisation industrielle postule que le travailleur, qu'on imagine désormais forcément comme un homme, s'épuise à l'usine et doit pouvoir se reposer en rentrant.
Et pour se reposer, il lui faut un espace dédié, géré par quelqu'un d'autre.
Exactement. Et en parallèle, l'usine commence à dégager un surplus financier. Ça permet l'émergence d'une classe moyenne, comme des comptables, des contremaîtres.
Des gens dont le salaire unique devient suffisant pour faire vivre la famille.
C'est ça. Mais il y a eu un vrai effort pour imposer ce modèle. Par exemple, avez-vous vu dans les sources cette anecdote sur les écoles d'art ménagère au XIXe siècle ?
Ah oui, c'est incroyable ça. En lisant les documents de l'époque, le cynisme est frappant. Le but avoué de ces écoles, ce n'était pas d'émanciper les jeunes filles.
Pas du tout.
C'était littéralement de leur apprendre à équilibrer un budget très maigre par des, je cite, « miracles d'économie » et aussi à se contenter de leurs conditions sans revendiquer face à la dureté de l'exode rural.
L'enjeu était purement économique pour les industriels.
Mais du coup, ça veut dire que la femme au foyer, telle qu'on l'imagine traditionnellement, ce n'est pas du tout un héritage naturel.
Eh non ?
C'est une véritable ingénierie sociale, conçue pour amortir le choc économique de l'industrialisation.
Exactement. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est fascinant de voir comment les moralistes et les théologiens de l'époque ont soudainement décrété que la place de la femme était au logis. Par nature.
Ils ont même récupéré des textes antiques pour justifier ça, non ?
Oui, ils citaient Xénophon et la Grèce antique pour justifier cette toute nouvelle séparation des sphères. D'un côté, la sphère productive pour l'homme, de l'autre, la sphère domestique pour la femme.
D'accord. Ce qui amène une question très pratique, une fois que cette division est installée. L'homme travaille à l'usine, il ramène l'argent. Mais qui gère réellement cet argent au quotidien ?
Et c'est là qu'on tombe sur un vrai paradoxe.
Oui. C'est un fait marquant des archives. Dans la classe ouvrière, c'était les femmes qui géraient les dépenses quotidiennes. Le mari leur remettait l'enveloppe de paie en rentrant.
La fameuse enveloppe, oui. Elles devenaient les intendantes du quotidien.
Sauf que, et c'est là que c'est fou, elles n'ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire à leur nom qu'en 1965.
C'est très récent, à l'échelle de l'histoire.
Complètement. Elles géraient la survie quotidienne, mais les gros achats, l'autorité légale, ça restait l'apanage exclusif des hommes.
Ce qui nous amène directement au grand duel théorique du XXe siècle sur cette situation précise. Nos sources mettent en scène deux visions radicalement opposées de cette dynamique familiale.
Alors, parlons-en. C'est Becker contre Delphi, c'est bien ça ?
Exactement. Commençons par la vision libérale, portée par Gary Becker, qui a quand même eu le prix Nobel d'économie en 1992.
Pas n'importe qui, donc ?
Non, voilà. Becker, lui, il théorise ce qu'il appelle le modèle du despote altruiste.
Le despote altruiste, c'est un concept, ça ? Comment il définit ça ?
En gros, il postule que le foyer est une unité parfaitement rationnelle qui cherche à maximiser son utilité. Et pour ça, le couple procède à une spécialisation des rôles.
Donc, la femme à la famille, l'homme au travail.
C'est ça. Pour Becker, c'est purement mathématique. Et il part du principe que le chef de famille, ce fameux despote, va redistribuer les bénéfices de son salaire de manière altruiste pour le bien-être de tout le foyer.
D'accord. Donc, pour Becker, la famille, c'est une sorte de ruche hyper harmonieuse, ultra efficace, où chacun a son rôle naturel et tout le monde en profite.
Voilà, c'est la vision optimiste. Sauf que, il y a une énorme faille dans ce modèle.
Oui, parce que se passe-t-il si le despote décide de ne plus être altruiste ou s'il y a un divorce ?
Exactement. Et c'est là qu'intervient la deuxième vision de nos sources, celle du féminisme matérialiste avec Christine Delphi.
Ah, avec son livre majeur, L'ennemi principal.
Tout à fait. Delphi dénonce complètement cette idée d'harmonie rationnelle. Pour elle, la famille abrite un véritable mode de production domestique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'elle analyse le foyer comme un lieu où les hommes extorquent le travail gratuit des femmes. Le ménage, les soins aux enfants, aux personnes âgées, tout ça, c'est du travail qui vaudrait une fortune s'il était rémunéré.
Ah ouais, je vois.
Et la thèse de Delphi, c'est que le profit de ce travail non rémunéré ne va pas au grand capitalisme abstrait, il va directement à la classe des hommes.
Donc le contraste est saisissant. Si on résume, pour Becker, la famille, c'est une entreprise super optimisée et heureuse. Et pour Delphi, c'est une usine parallèle où la moitié des travailleurs n'est tout simplement pas payée.
C'est exactement ça. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment une même réalité historique, l'homme qui ramène le salaire, la femme qui gère la maison, elle peut être lue soit comme une perfection économique, soit comme la base de l'exploitation patriarcale.
C'est fou quand on y pense. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond, pour nous, aujourd'hui? Parce qu'on pourrait se dire que ce conflit séculaire entre le foyer indivisible et l'individu, c'est de l'histoire ancienne.
Eh bien, pas tant que ça. Ce conflit, il se traduit encore très concrètement dans la vie de l'auditoire aujourd'hui.
À travers nos impôts, c'est ça, hein? Les fameux fantômes dans nos impôts.
C'est ça. Prenons le paradoxe moderne des statistiques. On utilise ce qu'on appelle les unités de consommation de l'INSEE.
Ah oui, l'INSEE. Comment ça marche concrètement, ces unités?
En fait, pour calculer le niveau de vie d'un foyer, on ne divise pas juste le revenu par le nombre de personnes. On attribue une part pour le premier adulte, 0,5 part pour les autres personnes au-dessus de 14 ans et 0,3 en dessous.
D'accord, ça paraît logique sur le papier de dire qu'un enfant coûte un peu moins cher qu'un adulte.
Sur le papier, oui. Le problème...
C'est qu'il n'y a aucun plafond en cette formule.
Aucun plafond. C'est-à-dire? Eh bien, l'algorithme suppose qu'un enfant coûte toujours la même proportion de votre salaire, que vous gagnez le SMIC ou 100 000 euros par mois.
Ah, je vois le souci. Les dépenses incompressibles pour un enfant ne montent pas à l'infini.
Exactement. Du coup, mathématiquement, ça sous-estime complètement le niveau de vie réel des foyers les plus aisés.
Et ça, ce n'est que pour les statistiques. Mais il y a aussi l'impôt sur le revenu, le fameux quotient familial.
Oui, le quotient familial favorise énormément les couples qui ont des revenus très inégaux.
Oui, l'État calcule par foyer, pareil pour les aides comme le RSA, non?
Tout à fait. Le RSA est calculé par foyer.
Donc si quelqu'un perd son emploi mais que son partenaire gagne un salaire correct, on lui refuse le RSA.
C'est ça. On maintient techniquement une dépendance économique féroce envers le conjoint.
Ce qui nous ramène à la dernière perspective de nos sources, la vision de Guillaume Travers, qui est très critique vis-à-vis de la modernité.
Oui, Travers apporte un éclairage très intéressant. Il explique que le capitalisme moderne a dissous l'ordre organique du Moyen-Âge, la fameuse famille de Le Play, pour créer ce qu'il appelle un atome salarial.
L'atome salarial, l'individu seul face au marché.
Exactement. Ça crée un hyper-individualisme ravageur sur le marché de l'emploi. Mais la transition est complètement bâtarde.
Bâtarde dans quel sens, Heure ?
Dans le sens où nous sommes des travailleurs atomisés, isolés la journée, mais dès qu'il s'agit de payer des impôts ou de demander des aides, l'État nous juge fiscalement comme des cellules familiales d'antan.
Mais du coup, attendez, l'État français, sous couvert de ce qu'il appelle joliment la solidarité conjugale, est-ce qu'il ne ferait pas que perpétuer un héritage patriarcal tout simplement parce que c'est administrativement plus pratique?
C'est la grande question, oui. C'est beaucoup moins coûteux pour l'État de forcer les conjoints à se soutenir financièrement plutôt que d'assurer une vraie indépendance à chaque individu.
C'est vraiment troublant.
Et cela soulève une question importante pour conclure. Nous avons vu que la dissolution du foyer indivisible de Le Play, elle ne nous a pas du tout libérés vers une égalité parfaite.
On est un peu resté au milieu du guet.
C'est ça, on est laissé dans une zone grise. Coincé entre, d'un côté, le mythe d'une émancipation par le salaire individuel qui masque en réalité un énorme travail reproductif gratuit, comme le dit Delphi, et de l'autre, une fiscalité qui refuse obstinément de lâcher l'ancien monde.
Eh bien, ça donne à réfléchir. La prochaine fois que les gens qui nous écoutent rempliront leur déclaration d'impôt conjointe, je suis sûr qu'ils verront se profiler les ombres du 19e siècle derrière chaque case.
J'en suis certaine, ouais.
On va d'ailleurs vous laisser sur une réflexion finale. Les textes qu'on a explorés aujourd'hui démontrent que le calcul par unité de consommation ou par quotient familial crée une illusion de neutralité statistique. Mais si chaque formule mathématique, chaque case de nos impôts porte en réalité le fantôme d'un ordre moral spécifique, qu'il soit patriarcal ou hyper-individualiste, est-il seulement possible pour un État de calculer le coût de la vie de manière véritablement neutre? Ou alors sommes-nous condamnés à légiférer notre morale à travers nos mathématiques financières? C'est une question qu'on vous invite à méditer. Merci à tous de nous avoir suivis.